Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir de Julian Assange et nous sommes pour évoquer ce personnage et ce qui s'est passé tout récemment, pour en débattre avec deux invités, Amaël Guiton de Libération et Elliot Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
On peut peut-être commencer avec vous, Amaël Guiton, peut-être pour un rappel des événements. D'abord, qui est Julian Assange, toute l'affaire Wikileaks et plus précisément ce qui s'est passé à Londres il y a maintenant une dizaine de jours.
Alors, c'est vrai qu'Assange, on a l'impression qu'effectivement tout le monde le connaît aujourd'hui parce que c'est devenu une célébrité planétaire à partir de 2010, hein, essentiellement. Il a eu une vie avant, il est né en 71 en Australie, il a eu une enfance assez compliquée, assez chaotique. La première partie de sa vie qui est bien documentée, c'est dans les années 90 quand il participe notamment à un collectif de hackers australiens qui s'appelle The International Subversives. Ça a fait notamment l'objet d'un bouquin que je conseille, hein, parce qu'il est passionnant, qui s'appelle Underground, signé par une journaliste américaine, Suellette Dreyfus. Et puis alors effectivement, en 2006, c'est la création de Wikileaks qui se fait, on va dire, doucement connaître effectivement à partir de cette période, par exemple avec des documents qui dévoilent des détournements de fonds au Kenya, des choses comme ça. Mais vraiment le moment où ça émerge à une échelle absolument planétaire, c'est l'année 2010 avec coup sur coup au printemps cette fameuse vidéo qui montre en fait un hélicoptère américain à Bagdad tirant sur des civils et deux photographes de l'agence Reuters. Hein, c'est la fameuse vidéo qui a été appelée collateral damage, donc dommage collatéral. En juillet 2010, c'est les documents secrets sur la guerre d'Afghanistan transmis par Chelsea Manning. En octobre, c'est ceux sur la guerre d'Irak. Et puis en novembre 2010, ce sont tous ce qu'on appelle les télégrammes diplomatiques, hein, les câbles de la diplomatie américaine. Donc il y a comme ça cette espèce de succession en 2010 qui à la fois le rend célèbre parce qu'il est la figure publique de Wikileaks, il est celui qui apparaît partout et en même temps engage cette espèce d'épreuve de force avec les États-Unis, dont finalement ce qui s'est produit la semaine dernière est l'épilogue provisoire, hein, avec cette arrestation dans l'ambassade d'Équateur, à l'invitation d'ailleurs de l'Équateur, hein, si on comprend bien, et la demande d'extradition américaine qui porte précisément sur les documents de 2010. En fait.
Alors, documents dont on dit qu'ils ont pu, le cas échéant, mettre en danger la vie de diplomates ou même d'agents secrets américains. C'est une des éléments qui contribue, au-delà de l'information, à faire en sorte que la justice américaine veut le punir.
Alors pour le coup, il y a toujours effectivement eu un débat sur la question du caviardage des documents. Moi, dans mes souvenirs vraiment, hein, tout ce qui avait été publié en 2010 à l'époque où d'ailleurs Wikileaks travaillait avec ses grands quotidiens, c'était le Guardian, c'était le Washington Post, le New York Times, le Monde en France, etc. Les noms étaient enlevés. Alors il y a eu à un moment donné effectivement une publication où manifestement le nettoyage avait été mal fait, ce qui a effectivement créé beaucoup de débats. Ceci étant, ce pourquoi la justice américaine veut l'extrader aujourd'hui, c'est formellement en tout cas pour avoir proposé à Chelsea Manning de l'aider à craquer un mot de passe pour pouvoir avoir accès à un serveur en particulier, mais postérieurement par ailleurs à l'envoi des premiers documents. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui a déclenché ce n'est pas ça qui a déclenché les publications de 2010 en tout cas, mais disons que c'est sur cette partie-là très précise que porte la demande d'extradition aujourd'hui, enfin que portent les charges en tout cas.
Elliot Lepers.
Il y a un parallèle intéressant avec Edward Snowden, qui est un autre lanceur d'alerte, qui est lui poursuivi pour des accusations d'espionnage et qui lui a fait le choix de ne pas publier en son nom, ne pas publier lui-même les documents.
Ce qu'il fait avec Glenn Greenwald.
Et Laura Poitras, effectivement. Ouais. Et donc il a volontairement, avec le précédent Assange qui était derrière, choisi de ne pas être celui qui divulgue, mais plutôt d'informer des journalistes et donc de passer par le filtre de la déontologie journalistique.
Finalement, sorti dans le Guardian, donc.
Exactement, ouais.
Alors, si on compare déjà, et on peut repartir sur ça, si on compare les trois figures, enfin, il y en a d'autres, mais si on prend Julian Assange, Edward Snowden et Chelsea Manning, on a là trois cas qui sont quand même assez différents d'un point de vue de ce qui est diffusé, on l'a dit, mais aussi donc des risques et de la manière dont ils sont soutenus par la communauté, je dirais, médiatique à travers le monde.
Bah, disons que Manning comme Snowden sont véritablement des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui appartiennent de l'intérieur d'une institution, et en l'occurrence, dans un cas, de l'intérieur de l'armée américaine et dans l'autre, de l'intérieur de la NSA, même si c'est un peu compliqué parce que, justement, Snowden travaillait pour une entreprise privée, il était contractant, entre guillemets, de la NSA, mais en tout cas des gens de l'intérieur qui estiment être face à une violation des droits fondamentaux et qui décident de faire sortir l'information. La position d'Assange, elle est différente, elle est d'ailleurs très originale, puisque en réalité, WikiLeaks est apparu comme une forme d'intermédiaire au tout début, entre les lanceurs d'alerte qui transmettent les documents et les grands médias qui travaillaient avec WikiLeaks. WikiLeaks joue effectivement ce rôle un peu d'interface. Ceci étant, WikiLeaks publie des documents, c'est-à-dire que la position d'Assange aujourd'hui, et ce d'ailleurs pourquoi son cas est assez compliqué et a posé question à l'administration Obama avant l'administration Trump, c'est qu'il est à valeur faciale, entre guillemets, un éditeur. Donc ça, c'est pour sa position dans l'écosystème journalistique, parce qu'il publie des documents. Et le risque, c'est, en lui reprochant à lui de publier des documents, de finalement créer un précédent juridique qui pourrait impacter les médias traditionnels.
En général.
Et alors après, effectivement, il y a l'aspect plus personnel d'une personne qui est complexe à tout le moins, avec des zones d'ombre. Il y a ces accusations de violences sexuelles en Suède, etc. Et puis il y a évidemment la séquence de la présidentielle américaine
et équatorienne, puisqu'au fond on va avoir les deux problèmes. Alors sur ça, Elliot Lepers, on en est où entre Trump, Lénine Moreno et le nouveau président équatorien qui vient de le déchoir en avril de sa nationalité équatorienne, qui avait été obtenue l'année précédente, et qui met fin tout d'un coup à son droit d'asile. La police britannique est alors invitée à pénétrer dans l'ambassade équatorienne, où il est arrêté. Les États-Unis, naturellement, ont demandé immédiatement son extradition.
Oui, c'est ça, à la faveur d'un changement politique au niveau du gouvernement équatorien. Il y a eu une différence dans le traitement qui a été accordé à Julian Assange, et donc le choix de le soutenir jusque-là a complètement évolué. Et Glenn Greenwald raconte justement que depuis l'été 2018, il y a la négociation d'un accord en cours entre l'Équateur et le Royaume-Uni pour effectivement donner lieu à cette arrestation telle qu'on...
Bon, il faut dire aussi que concrètement, il ne pouvait pas rester toute sa vie dans une petite chambre d'une ambassade équatorienne à Londres.
Et ça d'ailleurs, c'est un des arguments qui est aujourd'hui utilisé, qui est en train d'être très contesté par l'Équateur, en disant que le comportement d'Assange était devenu invivable.
Il était un peu dans une cage, il y avait un moment aussi où il était lui-même un peu énervé.
Sept ans d'enfermement, on est de toute façon quelqu'un qui est en mauvaise condition physique, qui n'avait pas accès au traitement dont il avait besoin, et en mauvaise condition psychologique, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à la lumière du jour, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à l'air.
Donc il était déjà en prison d'une certaine manière depuis 7 ans.
Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a des rumeurs de comportement et qui seraient aujourd'hui qui sont instrumentalisés un peu par l'Équateur pour justifier.
On a montré des vidéos notamment où il
n'était
pas très sympathique avec les gens qui travaillaient à l'ambassade.
Qui sont contestés par d'autres personnes qui ont pu lui rendre visite régulièrement et donc qui a justifié un peu qu'on le sorte de l'ambassade.
Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur Assange? Personnalisation, on a évoqué les accusations de violence sexuelle. Qui c'est précisément? Figure aussi très anarchiste d'une certaine manière, qui pense que tout doit sortir, quel que soit le document, il n'y a pas de limite. Chose que un certain nombre de journalistes, y compris parmi nous, ne défendent pas forcément. Moi j'ai eu accès à de nombreux télégrammes diplomatiques par exemple, dans une affaire récente, je ne les publie pas. Parce que c'est interdit et parce qu'on considère que ça peut être utilisé comme information, ça nous permet d'écrire une histoire, on les a, on connaît ses sources, ça peut permettre en cas de procès de pouvoir les fournir, les divulguer pour prouver qu'on a des faits, mais on ne les publie pas. Là, lui, il publie tout. Au fond, il n'y a pas de document secret, il n'y a pas de service secret, tout doit sortir.
Moi, je suis convaincue que pour vraiment comprendre Assange, il faut d'abord relire les textes qu'il a écrits en 2006, juste avant de lancer WikiLeaks. Et par ailleurs, il y a un autre document qui est extrêmement intéressant, c'est Eric Schmidt, qui était à l'époque patron de Google, lui rend visite en 2010, au moment où il est encore assigné à résidence et où il est dans ce manoir dans la compagne londonienne, et qu'ils ont une très longue conversation dont la transcription a été intégralement publiée sur le site de Wikileaks. Et c'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'on comprend effectivement sa manière de fonctionner. Il y a vraiment l'idée de transparence radicale, hein, c'est très clair. Il y a l'idée que de Wikileaks comme système qui évacue la question de la source. Ça, c'est compliqué à appréhender, hein, pour un journaliste, mais en tout cas, c'est très intéressant, effectivement, de voir que lui considère que la seule question qui vaille, c'est l'intérêt public du document. La source n'a aucune importance, ce qui peut par ailleurs expliquer aussi des choses plus récentes. Et Wikileaks, en tout cas dans sa partie technique, comme système de soumission de documents confidentiels, consiste précisément à évacuer la question de la source. Et il y a aussi l'idée de la transparence radicale comme outil de moralisation des pouvoirs. Il y a un côté, effectivement, je sais pas si je voulais être un peu vulgaire, mais ce serait tout est bon dans le cochon. C'est-à-dire à partir du moment où on a des éléments, on les met sur la place publique, on force les pouvoirs à plus de transparence. Alors effectivement, là où c'est intéressant, c'est quand on relit notamment la séquence de la présidence américaine, on est à la fois dans une forme de continuité de ça. Moi, pour le coup, il y a quand même une ligne directrice. Et puis aussi dans, effectivement, une vision du monde qui a évolué à la fois à cause de l'Internet, sa captivité et de son affrontement avec les États-Unis, qui est une vision, effectivement, d'un anti-impérialisme poussé à l'extrême, où ça devient camp contre camp, et où, en fait, l'ennemi principal, c'est vraiment les États-Unis. On ne se pose d'ailleurs pas la question d'autres impérialismes
notamment
dans
des Russes,
vision
oui,
du monde.
Ouais.
Voilà. Et donc, c'est à mon sens aussi, en grande partie, ce qui explique les positions qu'il a prises à l'époque.
Eliot de Perse, on peut dire qu'il y a des dérives de Wikileaks.
Il y a des dérives de Wikileaks dans la mesure où il y a une énorme personnalisation de Wikileaks. C'est-à-dire que Wikileaks, c'est Julian Assange. Et c'est peut-être ça la principale erreur, c'est que du coup, ça devient quasiment impossible de défendre Wikileaks parce que si on ne défend pas Julian Assange, quoi. Et donc, il a emmené Wikileaks avec lui dans sa dérive. Aujourd'hui, moi, je pense que Julian Assange doit être protégé en tant que lanceur d'alerte et pour ce qu'il a permis d'apporter. Il faut qu'il puisse avoir droit à un jugement équitable. En revanche, il faut qu'il puisse aussi répondre des accusations de viol, telles que c'est caractérisé dans le droit suédois,
hein.
Donc
en Suède, ouais.
Il a forcé une femme, les accusations sont sur l'idée qu'il aurait forcé une femme à avoir des relations sexuelles alors qu'elle était endormie et sans préservatif. Donc ça c'est considéré, l'absence de préservatif est considérée comme un viol en Suède. Et donc effectivement, il faut qu'il puisse répondre de ça devant les tribunaux suédois. Le problème aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la raison de son choix de rester enfermé à Londres, c'est qu'il ne considérait pas qu'il pouvait avoir accès à un jugement équitable. Et donc il a fait le choix de se soustraire à la justice. Et ça, c'est problématique. On ne peut pas décider soi-même de se soustraire à la justice. Donc, il est indispensable qu'on crée un statut qui puisse garantir qu'il ne sera pas extradé à la faveur de ce jugement-là vers les États-Unis pour répondre d'autres accusations, mais qu'il puisse quand même aller répondre de ces accusations de viol.
Zoé Sfez.
Mais justement, il y a les accusations de tuyaux de vol. Et puis, il y a aussi, effectivement, vous l'avez dit, toute cette culture de Wikileaks avec des jeunes femmes qui sont extrêmement impliquées dans la vie et la défense de Julian Assange. Mais au-delà de ça, une question peut-être ouverte et qui n'est peut-être même pas réelle, mais est-ce que Wikileaks pourrait survivre sans Julian Assange? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que ça a quand même fédéré des réflexions? Il y a des gens qui participent à Wikileaks. Est-ce que selon vous, la chute de Julian Assange pourrait...
C'est très compliqué d'envisager Wikileaks sans Assange pour une raison assez simple, c'est qu'il en est effectivement l'architecte intellectuel, il en est le fil à plomb. Et j'ai tendance à penser, même si c'est très opaque, hein, pour des tas de raisons, que Wikileaks c'est aussi rétracté d'une certaine manière. C'est-à-dire, je sais pas aujourd'hui combien de gens sont investis, mais j'ai tendance à penser que ça avait une aura dans les années 2010 qui était différente. Ceci étant, il faut pas oublier non plus que Wikileaks a un héritage. C'est-à-dire que avant, très peu de médias publiaient des documents, les documents d'origine. C'est devenu beaucoup plus fréquent aujourd'hui. Beaucoup de médias ont aujourd'hui des plateformes de soumission de documents confidentiels qu'on ne peut pas comprendre sans Wikileaks. Et on ne peut pas comprendre non plus les consortiums de journalistes tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, l'ICIJ, etc., sans Wikileaks. C'est-à-dire que, avec toutes les critiques qu'on peut avoir, ça a aussi ouvert des portes et ça a repoussé des limites.
Amaël Guiton, en une seconde, so what maintenant? Il y a une audience le 2 mai.
Il y a une audience le 2 mai sur la demande d'extradition américaine. Il faut savoir que en 2012 et en 2016 ou 2017, la justice britannique a refusé d'extrader des gens qui étaient justement accusés de piratage aux États-Unis à cause du risque de mauvais traitement et du risque psychologique. Donc Voilà, il y a des précédents, je pense que ces avocats vont beaucoup appuyer là-dessus. La vraie question, comme le disait Elliot, c'est est-ce que la dernière enquête suédoise qui a été classée mais qui n'est pas prescrite va être ou non réouverte, auquel cas il pourrait y avoir effectivement une demande émanant de la Suède. Ça, c'est l'inconnu.
Et de Lepers, dernière question pour terminer cette émission. L'enjeu derrière toute cette affaire Wikileaks et Julian Assange, c'est la protection des lanceurs d'alerte, la protection des journalistes ou un cas spécifique?
C'est avant tout ça, c'est avant tout d'imaginer des interstices où, eh bien, on peut dénoncer des agissements d'un État ou des agissements de multinationales s'ils sont contraires à l'intérêt collectif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal pour faire ça. Et donc, les personnes qui franchissent ce pas vivent un enfer et ne peuvent plus avoir accès à une...
Mais est-ce qu'on n'aurait pas aimé avoir non seulement Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, mais aussi un Assange iranien ou chinois ou vénézuélien qui permettrait de montrer qu'il y a d'autres choses à découvrir que simplement les secrets de la CIA et de la NSA aux États-Unis?
Et il y en aura sûrement. Il y en aura sûrement. C'est pour ça que nos nations doivent garantir effectivement un droit qui leur permette de s'exprimer, qui leur permette de trouver un asile pour pouvoir être entendus et pour pouvoir, effectivement, si derrière ils sont accusés, en répondre.
Merci à tous, merci infiniment. On en reste là pour ce soir. On se quitte avec Étienne de Crécy, puisque vous étiez dans une émission ce soir largement sur l'électro, avec l'exposition électro à la Philharmonie. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. La semaine prochaine, dans Soft Power, on s'intéressera à la FEMIS et à comment on forme les cinéastes et les scénaristes de demain. Merci à Amel Guiton de Libération et Dulle de Perse de l'ONG, le mouvement ONG, le mouvement.ONG. Merci à vous, Zoé Sfez. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée pour ce milieu de long week-end de Pâques à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.